Chapitre 2. Les 12. À l'époque, la guerre de la Vendée était malheureusement finie. Je vais vous rappeler ce qui se passait vers la fin de 1799. Jamais, depuis la mort du roi et de la reine, et depuis la guerre civile qui avait divisé la France, nous n'avions été, nous, les royalistes, plus abattus. Heureusement, des hommes traversaient de nuit la mer et allaient chercher en Angleterre des lettres pour les rapporter en France. Parmi eux, il y avait un homme très courageux, le chevalier des Touches. Il avait une beauté presque féminine, avec son teint blanc et ses beaux cheveux blonds. Cette délicate figure d'ange ne me charmait pas beaucoup. Mais sous cette peau fine, il y avait un cœur de chêne et des muscles très puissants. Un jour, j'ai vu le chevalier, qu'on avait traité de chouan avec insolence, se battre avec 4 paysans. Il a tordu leurs bâtons dans ses charmantes mains comme si c'était des roseaux. Un autre jour, pris à la cravate par un gendarme taillé en Hercule, il a saisi le pouce de cet homme entre ses petites dents et l'a coupé net tout en s'échappant d'un bond. Depuis ce jour-là, je l'avoue, je trouvais sa beauté moins féminine. Depuis ce jour-là aussi, j'avais appris à le connaître, au château de Touffe-de-Lys, où nous avions notre quartier général. C'était un assez grand manoir qui pouvait cacher une troupe nombreuse et dont les environs étaient couverts de grands bois. Situé près d'une côte difficile d'accès, le château de Touffe-de-Lys était parfait pour ces guerres à moitié éteintes que nous essayions de rallumer. Toutes les personnes qui voulaient continuer cette malheureuse guerre interrompue se réunissaient dans ce fidèle château de Touffe-de-Lys. Les chefs y venaient déguisés. Afin de ne pas attirer les soupçons, le château, qui n'avait plus que 2 châtelaines peu inquiétantes pour la République, abritait quelques femmes dont souvent les pères, les maris ou les frères avaient émigré. Ces femmes, en voici 4, monsieur de Fierdra. Et des ciseaux qu'elles tenaient, mademoiselle de Percy a montré les 2 Touffe-de-Lys, mademoiselle aimée, et enfin elle-même, en retournant la pointe de ses ciseaux vers elle. Les demoiselles de Touffe-de-Lys, très aimées des gens de leur terre, aimées et moi, nous ne filions pas nos quenouilles de lin. Les temps où l'on brodait dans la salle à manger du château n'existaient plus. Vous voyez Sainte de Touffe-de-Lys dans son canapé? Aujourd'hui, elle ne traverserait pas la place des Capucins à minuit. Eh bien, Sainte de Touffe-de-Lys, n'est-ce pas, Sainte? Venez seule avec moi la nuit, par les plus mauvais temps, porter sur cette côte isolée et dangereuse des lettres au chevalier des Touches. Déguisé en pêcheur, dans un canot fait de 3 planches sans voile, il traversait une mer dangereuse pour se rendre en Angleterre. Pour réussir avec un tel canot, il fallait être plus qu'un marin. On disait qu'il charmait les vagues. Il aurait dû 20 fois mourir dans ces terribles passages. Et dans le combat, c'était un des chouans les plus redoutables. « C'est la guêpe, » disaient les bleus, quand ils voyaient cette taille fine comme celle d'une femme. « Tirez à la guêpe !» Mais la guêpe s'envolait toujours. Il était chouan, mais il ne ressemblait pas aux autres chouans. Ses compagnons n'avaient pas seulement Dieu et le roi dans leur cœur. Comme les chevaliers d'autrefois, ils avaient tous, ou presque tous, une dame dans leur pensée. Mais pas le chevalier des Touches. Les femmes du château l'intéressaient fort peu, même si elles étaient belles. Je ne parle pas de moi, je parle de ces demoiselles de Touffe-de-Lys. Je parle surtout pour Aimée de Spence, qui était la plus jeune de nous. Elle avait 16 ans quand nous en avions 30. C'était une enfant, mais tellement belle, monsieur de Fierdra, qu'à part le chevalier des Touches, tous les hommes l'aimaient. Du moins, les 11 gentilshommes de l'expédition des 12, puisque le 12e est une femme, moi. « Quoi ? Ils l'ont aimé tous les 11 ?» a crié le baron. « Oui, tous, baron, » a répondu mademoiselle de Percy. Aimée de Spence, qui était orpheline, habitait Touffe-de-Lys depuis quelque temps, quand elle y a vu un jeune homme inconnu qu'elle a aimé, et dont nous avons toujours ignoré le vrai nom, le pays et les aventures. Aujourd'hui, elle ne vit que dans sa pensée, que dans ses souvenirs. C'est le chevalier des Touches qui a amené cet inconnu, resté pour nous un inconnu, au château de Touffe-de-Lys. Aimée connaissait le chevalier. Elle l'avait vu plusieurs fois chez une de ses tantes. Aimée avait retrouvé le chevalier à Touffe-de-Lys, et moi, je pensais qu'elle l'aimait. Quand le chevalier était là, j'avais en effet remarqué que son front devenait rouge et que ses paupières baissées tremblaient. Mais elle ne l'aimait pas. Vous souvenez-vous du jour où le chevalier est arrivé avec cet inconnu, Ursule ? Nous étions dans le grand salon. Vous et Aimée déchiriez des tissus, et moi, je fondais des balles. Tout à coup, ils sont entrés. Le chevalier des Touches nous a dit que son compagnon était un gentilhomme qui avait longtemps fait la guerre sous le nom de Monsieur Jacques, qu'on lui donnait encore. Après avoir échappé aux Bleus, il s'était réfugié en Angleterre, où on l'avait chargé d'une mission. Voilà pourquoi il était venu en France dans le canot de des Touches. Monsieur Jacques est allé voir l'homme qu'il devait voir et il est revenu quelque temps après à Touffe-de-Lys, grièvement blessé. Il a dû rester à Touffe-de-Lys. Ses blessures étaient nombreuses. Nous avons pu les compter car nous les avons pansées de nos mains de demoiselle. Il n'y avait pas de chirurgien au château de Touffe-de-Lys, il n'y avait que des chirurgiennes. J'étais la chirurgienne en chef. On m'appelait le major. Je me rappelle que, quand j'ai vu le corps de Monsieur Jacques, j'ai regardé mon groupe d'aide et je leur ai dit en montrant le blessé « Si nous le sauvons, ce sera un beau bijou pour celle qui voudra se le passer autour du cou, mesdemoiselles. » Elles ont toutes ri. Mais Aimée est restée silencieuse. Elle avait rougi. Elle rougit aussi pour des Touches, ai-je pensé. Laquelle de ces deux rougeurs est l'amour? Je n'aurais pour ma part jamais pu aimer ce Monsieur Jacques. Il était mélancolique. Je n'aime pas les hommes mélancoliques. Je les trouve moins hommes que les autres hommes. Que voulez-vous ? J'aime les héros de bonne humeur. C'est vrai, a dit alors Mademoiselle Ursule, qu'il n'était pas très aimable, ce Monsieur Jacques. Il était triste, mais on disait qu'il avait des raisons pour l'être. Vous savez bien, Percy, qu'on disait qu'il était un commandeur de Malte. Oui, a répondu Mademoiselle de Percy. On le disait. Il a dû souffrir cruellement quand il est devenu amoureux de cette Aimée, car les chevaliers de Malte doivent rester célibataires. Mais nous n'avons jamais su si cette histoire de chevalier de Malte était vraie. Certes, le jour où Aimée nous a appris qu'elle était fiancée, en disant « Ma chère Ursule, je vous en prie, donnez des fraises à mon fiancé », il est devenu tout pâle. Il aurait dû être heureux qu'elle dise ça, mais il est devenu tout blanc. Pourtant, c'était un homme courageux, puisque lorsque Destouches était emprisonné à Avranches, il est entré dans la prison, y a mis le feu et n'est sorti que quand tout avait brûlé. Comment à Avranches ? A dit le baron de Fierdra étonné. Mais vous avez délivré Destouches à Coutances, mademoiselle. Vous étiez en Angleterre en ce temps-là, vous et mon frère, a répondu Percy. Vous n'avez pas tout su. Avant d'être emprisonné à Coutances, on a emprisonné le chevalier à Avranches, et on l'a transféré à Coutances parce que nous avions tenté de brûler la prison d'Avranches. C'était donc vers la fin de l'année 1799, a repris l'historienne du chevalier des Touches. Il y avait plusieurs mois que M. Jacques était avec nous, à peu près guéri, mais faible et souffrant encore de ses blessures. Pendant ce temps, Destouches était passé peut-être 20 fois de Normandie en Angleterre et d'Angleterre en Normandie. Plus il allait et venait, plus il devait faire attention, car le succès de ses passages exaspérait ses ennemis. Il était devenu l'homme de son nom, la guêpe, insaisissable, l'ennemi invisible. La guerre entre eux et lui était plus que de la guerre, c'était de la chasse. Il avait déjà failli être pris plus d'une fois, racontait-on dans les fermes du pays. Alors, quand on est venu nous dire qu'il avait été attrapé, nous n'avons même pas été étonnés. Celui qui est venu nous dire, à Touffe-de-Lys, cette terrible nouvelle, était un jeune homme de cette ville. Il n'était pas gentilhomme, il s'appelait Juste le Breton. Juste était fort comme le chevalier Destouches, mais c'était un homme trapu et carré. Juste savait que Destouches avait été attrapé, mais il ignorait encore comment. « Un homme pareil, nous a-t-il dit, et nous pensions comme lui, a dû être trahi. » Destouches avait été attrapé près d'Avranches, et on l'avait mis dans la prison de cette ville, en attendant son exécution à mort qui arriverait certainement bientôt, car la République ne perdait pas de temps. Le soir même, nous avons vu arriver au château, sous des déguisements de marchands, de mendiants, une grande quantité de nos gens qui s'étaient jurés de délivrer le chevalier ou d'y mourir. Vous ne vous doutez pas, monsieur de Fierdras, ni vous, mon frère, de ce que nous avions fait de Touffe de Lys. Et si je ne vous le disais pas, mon histoire serait incomplète. Nous avions transformé ce vieux château en un château paisible. Nous avions fait combler les fossés, baisser les murs. Oui, nous avions accompli toutes ces choses pour faire croire aux Bleus que c'était un lieu doux et sans armes, la maison de l'innocence. Pour cela, il fallait que les chouans ne soient pas trop nombreux. Ils n'ont été trop nombreux que lors de l'arrestation de Destouches. Très vite, les chefs ont compris l'imprudence d'une grande réunion et ils ont fait partir plusieurs chouans. Quelques hommes suffisaient pour enlever Destouches. Les chefs ont choisi les plus forts et les plus courageux. Ce sont ceux-là que depuis on a appelés les 12. On a oublié leur nom. Et quand celle qui vous raconte cette histoire sera couchée dans sa tombe, dans le cimetière de Valognes, il n'y aura plus personne pour savoir ses noms. Moi, je les sais. Et après ma mort, il suffira d'ouvrir mon cercueil pour les savoir, ces noms qui méritaient la gloire et qui ne l'ont pas eue. On les trouvera dans mon cœur. Mais leur nom, mademoiselle, leur nom ! A crié monsieur de Fierdras. Écoutez-les. C'était la Varennerie, la Bochonnière, Cantilly, Beaumont, Saint-Germain, la Chapelle, Campion, le Planquet, Desfontaines et Vinel-Royal-Ony. Les voilà tous, avec juste le Breton et monsieur Jacques. Comme monsieur Jacques, ils avaient tous un nom de guerre. Les chouans étaient donc 13, puisque vous n'avez pas dit votre nom. Non, a répondu la vieille historienne. Je n'ai pas fait partie de la première expédition des 12. Je n'ai fait partie que de la seconde.